Chapitre 20. 12 décembre 2017. 27 ans après, je revois tout de ce matin d'avril. Ce moment suspendu. Nous, regardant Pierre Beau, tétanisé. Les deux gifles, la violence du grand-père dans l'enceinte du collège qui se jette sur Nina. L'incompréhension entre rêve et réalité. La rapidité de la scène aussi. Cela dure moins d'une minute. Sa petite tête brune, comme si elle se décrochait. Elle porte un sweat noir avec des papillons gris dessus, des papillons comme des fleurs fanées. Elle demande pardon à son grand-père. Je l'entends encore, ce pardon qu'elle souffle. Elle ne se défend pas, ne semble pas lui en vouloir. Tout le monde se demande ce qu'elle a fait. Et puis, il y a ceux qui ont vu, et ceux qui n'ont rien vu. Plus tard, après l'événement, une fois rentré chez soi, on va imaginer, supposer, extrapoler. Elle a dû coucher, elle est comme sa mère. Le vieux l'a découvert et il n'a pas supporté. Elle couche avec lequel? Beaulieu ou Bobin? Les deux en même temps? Elle est enceinte. Enceinte à 14 ans, oui c'est ça. Un polichinelle dans le tiroir, si c'est pas malheureux. Après le départ de Pierre Beau, d'abord une seule question dans la cour du collège. Comme un relais que l'on se passe de bouche en bouche. « Qui c'est ce vieux ?» Puis la réponse fuse. « Son grand-père !» Des visages gênés, des crispations, des rires forcés. « T'as quoi comme cours cet après-midi ? » Une heure d'études. « La prof de sport est malade, et toi ?» « Anglais. 2 heures de maths et un terreau. » Quelques élèves, des filles, demandent à Nina si ça va. Elle reste à quelques dizaines de centimètres d'elle. Comme s'il y avait un périmètre de sécurité à respecter, une barrière qui séparait Nina des autres. Comme si Étienne Beaulieu et Adrien Bobin avaient la primeur et que c'était inscrit dans toutes les consciences, dans chaque geste, regard, mot, pas touche. Après, je me souviens qu'Adrien a traîné Nina vers l'infirmerie et qu'Étienne est resté comme deux ronds de flanc au milieu de la cour avant de partir avec sa sœur à la cantine. Ce jour-là, les deux gifles du grand-père ont fait exploser le trio. Nina a accusé sa mère. Elle a raconté à Adrien qu'elle avait passé la veille à s'abîmer les yeux sur 3 photos qu'Étienne lui avait apportées, et qu'à cause de ça, elle avait oublié tout le reste, et que c'est ce reste que son grand-père avait trouvé sous sa tête d'oreiller. Ce truc que seul Adrien savait, les lettres volées, le secret qu'il partageait. Sa mère lui porterait toujours malheur. Fallait laisser tomber. Arrêter de chercher des photos, des preuves de son existence. Fallait arrêter de comprendre comment elle était et pourquoi elle avait déposé Nina comme un sac de linge sale chez son père, le seul qui avait voulu d'elle et qu'elle décevait. Je suis en train de préparer l'enveloppe de Noël pour le refuge de Nina. Je glisse les euros à l'intérieur, écrit Nina Beau, personnel et confidentiel, en majuscule pour éviter qu'elle reconnaisse mon écriture. Comme si elle pouvait imaginer que ce soit moi. Par association d'idées, je repense à la lettre anonyme qui l'a trahie. L'origine du drame. Je crois que Nina n'avait jamais vu ce que Pierre Beau avait fini par en faire, s'il l'avait jeté ou distribué. La seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que le destinataire de cette saloperie de lettres, Jean-Luc Morand, est toujours vivant et sa supposée veuve aussi. Il participe à tous les concours de belote. J'attends toujours le soir pour monter au refuge comme une voleuse, glisser ses étrennes particulières dans la boîte aux lettres. Comme ces gens qui n'ont pas de courage et préfèrent abandonner leurs chiens en les attachant aux grilles pendant la nuit, plutôt que d'affronter le regard d'autres hommes dans la lumière du jour. Cela fait 3 fois que je vais au refuge depuis le début du mois. Ça n'était jamais arrivé. Mon enveloppe est posée sur le siège passager. En hiver, je ne sors jamais après 21h. J'ai mes habitudes à présent. Toutes petites, parce que les habitudes, c'est souvent petit. Mon travail, mes séries, mes émissions, les réseaux, mes repas, un tas de romans à côté du lit. Dans mes phares, des Pères Noël en plastique agrippés aux maisons, des couronnes de sapin sur les portes, des guirlandes qui clignotent autour des fenêtres, un Merry Christmas qui se décroche d'une devanture, près de tomber. Un Noël sans neige. Ici, elle arrive plus tard, vers la mi-janvier. Je longe le terrain vague sur lequel, il y a encore 1 mois, le collège du vieux Colombier vieillissait. Pourrissait seul, abandonné de tous, même des matières qu'on aimait bien, la musique, le dessin, le travail manuel. Ce soir, c'est comme s'il avait coulé. Du brouillard, ralentir, un peu de verglas. J'emprunte la petite route qui mène au refuge. Deux ou trois maisons éparses, des lumières rouges et vertes sur l'une d'entre elles, lointaines. Noël. Dans une dizaine de jours, Étienne va débarquer chez ses parents pour réveillonner, comme tous les ans, comme un enfant obéissant qui rentre à l'heure. C'est le seul moment de l'année où on le revoit traverser les rues de la Comelle pour acheter ses cigarettes au bureau de tabac. Sa grosse bagnole garée sur la place de l'église, là où il retrouvait Nina et Adrien, sur son skate pour aller à la piscine. Est-ce qu'il pense à eux? Est-ce qu'il pense à ça? Est-ce qu'il va être inquiété si le corps retrouvé dans la voiture est celui de Clotilde? Les deux fois où je l'ai revu, j'ai tout arrêté. J'ai garé ma carcasse dans un coin et j'ai attendu que ça passe. Que ça passe comme un courant d'air glacial, une pluie soudaine et violente ou un coup de soleil. Étienne Beaulieu paralyse mes gestes, empêche mes mots. L'année dernière, je l'ai presque frôlé en pénétrant dans l'église. Je ne m'attendais pas à lui, alors que je sais que la seule chance de tomber dessus, c'est entre le 23 et le 26 décembre. Il était 18h20. À la Comelle, la messe de minuit est célébrée à 18h30. Emmitouflé dans un long manteau, je marchais vers l'entrée où quelques badauds échangeaient à l'extérieur, quand j'ai reconnu sa silhouette, sa manière de se déplacer. Il était à peine un mètre de moi, seul. Engoncé dans un gros blouson fourré, la tête couverte par une capuche. Ma peau en état d'alerte, chair de poule. C'est lui. Il ne m'a pas vue. J'ai entreaperçu sa bouche, une cigarette, sa main, une taffe. Grand, très grand. J'oublie toujours sa taille. Je me suis retournée. Je l'ai vu de dos marcher vers le centre-ville, du moins ce qu'il en reste. Ensuite, j'ai tremblé, longtemps, très longtemps. Ce soir-là, j'ai fait des photos du petit Jésus pour le journal. Elles étaient floues. Je revoyais Étienne passer tout près de moi, décortiquant chaque millième de seconde de ce moment. Le parking du refuge est vide. Pas un bruit. Les chiens doivent dormir. Je laisse le moteur tourner et les phares allumés pendant que je descends. La boîte aux lettres est rouillée. Le clapet grince quand je glisse l'enveloppe à l'intérieur. Je suis parcourue par un frisson. J'ai à moitié la trouille, comme si j'avais quelque chose à me reprocher. « C'est toi ?» Je sursaute, suspends mon geste. « C'est toi ?» redemande-t-elle. Comme si c'était une évidence, comme un couple marié depuis 20 ans qui se retrouve en fin de journée. « C'est toi ? Tu as passé une bonne journée ? Mets-toi à l'aise, je t'ai servi un verre. Les enfants sont rentrés ? Ta mère a téléphoné ? Y a quoi au congélateur ?» La silhouette de Nina se détache comme un fantôme derrière la porte grillagée, puis son visage dans mes phares, sa pâleur, de la bruine dans ses cheveux, des paillettes, du givre. Oui, c'est moi.